Pour cette nouvelle heure midi, vous êtes en vacances dans l'Occitanie, mais la radio ne prend pas de congé. Et on vous offre vos rendez-vous habituels, comme dans 10 minutes avec l'interview d'Isabelle Honnel. Elle est avec Vincent Darmuset, chef du service statistique de la Direction régionale de l'agriculture. Ils vont évoquer le recensement des agriculteurs dans l'Occitanie. Dans 20 minutes, Église Actualité avec notre journaliste de la rédac à Toulouse, Emmanuel Pella, pour tout savoir en deuxième partie d'heure. Le tour des diocèses, nous allons dans la ville rose où vous nous écoutez sur le 97.9. Et votre chronique en fin d'heure à l'air du temps avec Patrice Damplinquette. Le sujet est sur le drame de l'enseignant. Avant tout ça, avant toutes vos belles émissions, votre point dans l'Occitanie avec Luc Vidal-Giraud.
Le vent a soufflé très fort cette nuit dans les Pyrénées, toujours balayé par la tempête Barbara. 12 départements sont toujours en vigilance orange, dont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. L'Agence régionale de santé Occitanie publie son dernier bulletin de situation. Il fait état de 50 personnes mortes du Covid dans la région ces 4 derniers jours. Un conseil de défense se réunit ce mercredi à Paris pour examiner la situation du pays face à l'épidémie. Il devrait aborder le cas du Tarn, où un couvre-feu pourrait rentrer en vigueur vendredi pour les agglomérations d'Albi, mais aussi de Castres, Mazamet et Carmaux. Il y a du mieux au chapitre sécurité routière dans le Tarn-et-Garonne. Les 3 premiers trimestres 2020 font apparaître une baisse marquée du nombre de tués sur les routes. 14 contre 20 pour la période équivalente de l'année dernière. Au chapitre nomination, a signalé que le maire de Cahors, Jean-Marc Veillissous-Fort, a été reconduit dans ses fonctions de président de l'Association des maires de France du Lot. Il a été réélu à l'unanimité. Un hommage national sera rendu en soirée à Samuel Paty, l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine, vendredi. Une minute de silence sera observée place du Capitole, dont la façade sera éclairée bleu, blanc, rouge toute la nuit. De son côté, la présidente d'Occitanie, Carole Delga, a décidé, au nom de la liberté d'expression, de projeter les caricatures de Charlie Hebdo sur les façades des deux hôtels de région à Toulouse et à Montpellier. Les assises de l'Aveyron jugent actuellement une affaire de viol et d'agression sexuelle en récidive commis sur un garçon de 12 ans. Les faits ont été commis à Capdenac en 2013. L'avocat général l'a requis une peine de 16 à 18 ans de prison. Les plaidoiries de la défense ont lieu aujourd'hui. Le verdict est attendu dans la soirée. Plusieurs indiscrétions font état de deux étapes organisées dans les Hautes-Pyrénées pour le prochain Tour de France. Ce sera la 108e édition. Le 14 juillet devrait voir passer les coureurs de la Grande Boucle depuis Saint-Gaudens vers la Vallée d'Or. La deuxième étape, promise aux Hautes-Pyrénées, relierait dès le lendemain Pau à la station de Luz-Ardidène.
Merci Luc, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour un autre point sur l'actualité.
La météo.
22 degrés de moyenne pour cet après-midi. Demain matin, là encore un très beau temps à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Il fera 16 degrés ainsi qu'à Auch et Rodez, 18 auprès de la gare Matabio à Toulouse et 15 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, la perturbation vient nous rendre visite. De rares averses dans le Lot, 21 degrés ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et le Gers. Des éclaircies pour Saint-Gaudens. Le mercure montera jusqu'à 19 degrés et 20 degrés tout rond. Pour Tarbes, excellent après-midi sur Présence.
Présence à Auch 89.6.
Nous allons parler des agriculteurs dans notre région, Isabelle.
Et oui, ils sont un peu plus de 80 000 en Occitanie. Alors combien précisément? Eh bien, c'est le recensement qui le dira. Les agriculteurs d'Occitanie vont être recensés donc à partir de ce mois d'octobre et jusqu'en avril 2021. On en parle avec mon invité. Bonjour, Vincent Darmuset.
Bonjour.
Vous êtes chef du service statistique à la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, qu'on connaît mieux sous l'acronyme DRAF. Alors, il a commencé ce recensement. Ça sert à quoi de compter les agriculteurs?
Ça sert à avoir un état très précis de l'agriculture, du nombre d'agriculteurs, de leurs pratiques et des métiers de l'agriculture. Opération qu'on fait une fois tous les 10 ans et qui permet de faire des comparaisons entre États membres, puisque ça concerne toute l'Europe, l'Union européenne, et on compare les agricultures entre elles.
Alors, on ne vous entend pas très bien. Rapprochez-vous de ou enlevez peut-être votre casque si vous en avez un. Ça a lieu régulièrement, vous nous le dites, tous les 10 ans et ça permet de comparer l'état de l'agriculture dans les États membres de l'Europe avec le but, on imagine, d'adapter les politiques agricoles. On parle de la PAC en ce moment hein, au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit aussi ?
Tout à fait. C'est vraiment dans ce cadre-là, ça sert de données pour l'évaluation des politiques publiques agricoles, donc la PAC en premier lieu. C'est pour ça que c'est une demande européenne et que c'est payé par l'Union européenne. Mais ça nous sert aussi pour nos politiques agricoles françaises ou régionales. Voilà, ça, c'est une source de données également pour les chercheurs, pour tous les décideurs, voilà, pour le monde agricole lui-même, avec les chambres d'agriculture qui sont en général très friandes des données du recensement de l'agriculture.
Et alors, qui est concerné ? Combien précisément ?
Alors, c'est un peu plus de 87 000 contacts qu'on va prendre. Après, tous ne seront peut-être pas retenus comme étant exploitation agricole, puisque c'est le but du recensement d'agriculture, c'est d'être exhaustif, c'est de faire vraiment la photographie de toutes les exploitations d'Occitanie et de France entière. Donc, on enquête, on ratisse large, et puis c'est à l'issue de l'enquête qu'on déterminera qui fait partie de l'agriculture professionnelle ou pas, en sachant qu'il y a des seuils statistiques pour être considéré comme une exploitation agricole.
On n'est pas considéré exploitation à partir du moment où on paye ses cotisations à la MSA, la mutuelle agricole ?
Pas forcément. Il y a plusieurs types de cotisations, et donc il faut avoir un certain volume de production et un certain volume de vente pour être considéré comme agriculteur au sens statistique du terme.
Mmh. Alors voilà, le précédent recensement a eu lieu en 2010. Qu'est-ce qu'on a noté comme évolution particulière à ce moment-là ? C'est quoi la tendance ? On peut imaginer qu'il y en a de moins en moins, malheureusement, des agriculteurs. Est-ce que vous l'avez noté ?
Alors malheureusement, oui, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs décennies, maintenant, hein, depuis les années 60. Ce qu'on a constaté en 2010, c'est que cette baisse continue des agriculteurs avait fortement diminué. Donc on est sur un ralentissement de la baisse. On a constaté que les exploitations deviennent de plus en plus grandes également et qu'elles se spécialisent. C'est-à-dire que on a de plus en plus d'arrêts d'exploitations qui font un peu de tout et on va vers une spécialisation soit en grande culture, soit en élevage, soit en viticulture. Voilà pour les trois grands systèmes dominants de la région Occitanie.
Alors, est-ce que on parle beaucoup aussi de circuits courts en ce moment, de production locale, ça a le vent en poupe ? Est-ce que ça l'était déjà en 2010 ? Est-ce que c'est une tendance qu'on peut imaginer retrouver cette année-là avec ce recensement ?
Alors oui, c'est quelque chose qu'on voyait en 2010 et c'est quelque chose qu'on pense, on a des tendances puisqu'entre les deux recensements d'agriculture, on a quand même des enquêtes qui nous permettent d'avoir des tendances et des évolutions, mais là on va pouvoir avoir une évolution précise et oui, on pense que les circuits courts, la vente directe s'est développée encore, mais c'est justement les résultats du recensement nous permettront de voir exactement de combien.
Et alors, l'agriculteur en Occitanie, on imagine, l'agriculteur est un homme. Hein.
Alors, il est un homme, mais il est de moins en moins. C'est de plus en plus une femme. Non pas qu'elles étaient absentes avant, mais elles n'avaient pas forcément le statut de chef d'exploitation. Et elles l'ont de plus en plus. Et voilà, je pense que ce sera un des enseignements forts du recensement de l'agriculture 2020, puisque c'est des choses qu'on voit en tendance, mais encore une fois... Voilà, de manière précise, on aura l'évolution du nombre de chefs d'exploitation en chef.
Ça demande à être confirmé. Quelles sont les surprises que vous attendez, auxquelles vous vous attendez, donc qui seront moins des surprises ? Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce recensement 2020, Vincent Darmuset ?
Les questions, c'est un peu celles que vous avez posées, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse en termes de surprise, c'est de voir justement l'évolution de la diversification agricole, l'évolution de la commercialisation par des circuits courts, et puis quel type de circuit. Voilà, et puis je pense aussi au rapport entre le nombre de chefs d'exploitation et de salariés, puisque de plus en plus on sent qu'on va vers des formes sociétaires et non plus l'exploitation familiale. avec des capitaux familiaux. Voilà, donc c'est peut-être un des enseignements qu'on aura du recensement d'agriculture 2020. C'est des choses qui étaient déjà en marche, mais il y a eu des réformes de la politique agricole commune qui incitent à aller vers des formes sociétaires et qui incitent justement à avoir sa femme ou sa conjointe comme chef associé, non plus comme conjointe collaboratrice. Voilà, donc c'est peut-être...
Et alors concrètement, comment ça marche le recensement? Ça va commencer où? Ça a commencé fin octobre, ça dure jusqu'en 2021. On reçoit la visite d'un agent de l'État, c'est ça?
Alors, la grosse nouveauté de 2020, c'est que non, tous les agriculteurs ne recevront pas la visite d'un enquêteur. La plupart, à peu près 75% d'entre eux, feront une déclaration sur Internet, donc répondront au questionnaire par Internet. Et effectivement, une partie de la population agricole recevra un enquêteur. Donc, ils sont déjà sur le terrain. Certains ont déjà reçu nos enquêteurs pour un entretien en face à face.
Eh bien, merci beaucoup pour ces explications, Vincent Darmuzet. Recensement des agriculteurs en Occitanie, c'est en ce moment. Y aura-t-il plus de femmes? Y aura-t-il plus de bio? Y aura-t-il plus de circuits courts? Eh bien, le résultat, on l'aura dans le courant de l'année prochaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Église Actualité arrive avec Emmanuel Pella dans 4 minutes, juste après l'Écossais. J'ai nommé Ed Sheeran avec Castle on the Hill sur Radio Présence. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by, but
These people raise me and I can't wait to go on and I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill.
Présence à Aspect 94.1.
Église Actualité. Emmanuel Pella.
Ce vendredi 23 octobre, à Terraube, le diocèse d'Auch propose un concert exceptionnel avec trompette et orgue avec Guy Touvron, grand trompettiste français, dans le cadre d'une tournée anniversaire. Rendez-vous ce vendredi 23 octobre, donc à 20h, à l'église de Terraube. Ce samedi 24 octobre, pour rappel, à Albi, le diocèse d'Albi organise la formation à l'accompagnement intitulée « Se connaître pour mieux servir », session qui sera organisée par sœur Eliane Claire Canglin. Rendez-vous ce samedi 24 octobre dès 9h30 à l'archevêché d'Albi. Pour tout renseignement, un site internet www.albi.catholique.fr. Ce samedi 24 octobre également, au départ de Lourdes, pour rappel toujours, la Fraternité des Capucins organise une marche de 5 jours pour les 16 à 30 ans, accompagnée par les Capucins depuis la grotte de Lourdes jusqu'à la chapelle Notre-Dame du Bout du Puy près de Saint-Gaudens, où le père Marie-Antoine, autrement appelé le Saint de Toulouse, fut vicaire après son ordination. Rendez-vous ce samedi 24 octobre dès 9h30 à la Fraternité des Capucins à Lourdes. Ce samedi 24 octobre toujours, à Rodez, le diocèse de Rodez et de Vabre organise la rencontre des baptisés et des confirmants adultes avec Mgr François Fonlu, évêque du diocèse de Rodez. Rendez-vous ce samedi 24 octobre à 15h à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Ce dimanche 25 octobre à Lourdes, le Centre Assomption organise une retraite sur le thème « Suivre Jésus », retraite qui sera prêchée par le père Bertrand Chevalier. Rendez-vous ce dimanche 25 octobre au matin au Centre Assomption à Lourdes. Enfin, dimanche 31 octobre à Blagnac, la communauté des Béatitudes proposera une rencontre à tous ceux qui veulent vivre de la spiritualité de la communauté des Béatitudes, cette communauté dite du renouveau charismatique, et participer à sa mission. Rendez-vous dimanche 31 octobre à 9h à la communauté des Béatitudes à Blagnac.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
L'essentiel de l'actualité de votre région sur les 21 fréquences de Radio Présence, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. Le vent a soufflé très fort cette nuit dans les Pyrénées, toujours balayé par la tempête Barbara. 12 départements sont toujours en vigilance orange, dont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Une lente accalmie est prévue dans le courant de la journée dans l'ouest de la chaîne. Cette accalmie s'étendra ensuite à l'est. Dans la région toulousaine, le Rhône et le Massif central, le vent va rester fort jusqu'en milieu de matinée et faiblira plus significativement dans l'après-midi. Météo France a relevé cette nuit une rafale à 216 km/h à Irati dans les Pyrénées-Atlantiques et une à 194 km/h au sommet du pic du Midi de Bigorre. Plusieurs lignes de chemin de fer ont dû être stoppées hier soir, la ligne Toulouse-Mazamet et la ligne Axe-les-Thermes, la Tour de Carole. Peu de dégâts sont à signaler, des arbres tombés sur les routes et des lignes électriques. Ce matin, à 8h, EDF annonçait que 19 000 foyers étaient privés d'électricité dans les Pyrénées-Atlantiques, dont 12 500 au Pays Basque. On en comptait 3 000 dans les Hautes-Pyrénées, 1 500 dans les Landes. L'Agence régionale de santé Occitanie vient de publier son dernier bulletin de situation. Il fait état de 50 personnes mortes du Covid dans la région ces 4 derniers jours. Au total, 874 hospitalisations sont en cours, dont 201 en réanimation. On ne va pas vers une amélioration. Un conseil de défense se réunit ce mercredi à Paris pour examiner la situation du pays face à l'épidémie. Il devrait entre autres aborder le cas du Tarn, où un couvre-feu pourrait rentrer en vigueur dès ce vendredi minuit pour les agglomérations d'Albi, de Castres, de Mazamet et de Carmaux. Comme à Toulouse et les 43 communes de son agglomération, les déplacements seront interdits de 21h à 6h du matin, sauf dérogation. Autre tour de vis, cette fois dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet y a annoncé de nouvelles mesures restrictives. Les bars vont devoir fermer à 22h. Cette mesure prendra effet demain et sera valable 15 jours. Les soirées estudiantines, comme les sorties scolaires et périscolaires, sont par ailleurs interdites. Les Pyrénées-Atlantiques affichent le taux d'incidence du virus le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine avec 209 cas positifs au Covid-19 sur 100 000 testés, une hausse d'un facteur 1,5 en deux jours. Il y a du mieux au chapitre sécurité routière dans le Tarn-et-Garonne. Les trois premiers trimestres 2020 font apparaître une baisse marquée du nombre de tués sur les routes, 14 contre 20 pour la période équivalente de l'année dernière. Autre baisse d'importance, le nombre d'accidents corporels depuis le 1er janvier a enregistré un recul de l'ordre de 25%. Au chapitre nomination, a signalé que le maire de Cahors, Jean-Marc Veissouze-Fort, a été reconduit dans ses fonctions de présidente de l'Association des maires de France du Lot. Il a été réélu à l'unanimité. Il préside également l'Union régionale des associations de maires et d'élus locaux d'Occitanie. Un hommage national sera rendu en soirée à Samuel Paty, l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier. Une minute de silence sera observée place du Capitole, dont la façade sera éclairée en bleu-blanc-rouge toute la nuit. De son côté, la présidente de la région Occitanie a décidé, au nom de la liberté d'expression, de projeter les caricatures de Charlie Hebdo sur les façades des deux hôtels de région à Toulouse et à Montpellier, et ce, de 17h à 21h. Il s'agit là d'un acte fort, indique Carole Delga dans un communiqué, qui dit également rejoindre la décision de Région de France de publier avec l'Éducation nationale un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques de la presse régionale et nationale. Dans notre République, ajoute Carole Delga, il ne peut y avoir d'arrangement avec la laïcité, la liberté d'expression et la liberté de conscience. Il ne doit y avoir aucune faiblesse face aux ennemis de la démocratie, face à ceux qui dévoient la religion pour la transformer en arme de guerre. La présidente d'Occitanie indique par ailleurs que la sécurité sera renforcée dans les prochaines semaines autour et dans les lycées de la région. Les assises de l'Aveyron jugent actuellement une affaire de viol et d'agression sexuelle en récidive commis sur un garçon de 12 ans. Les faits ont été commis à Capdenac en 2013. L'avocat général a requis une peine de 12 à 13 ans de réclusion criminelle assortie de 4 à 5 ans supplémentaires en cas de non-respect de différentes mesures demandées, injonction de soins, suivi socio-judiciaire et interdiction d'exercer une activité en relation avec des mineurs. Les plaidoiries de la défense ont lieu aujourd'hui et le verdict est attendu dans la soirée. Saviez-vous qu'il suffit actuellement d'une nuit claire pour voir tour à tour, à l'œil nu dans le ciel, les planètes Jupiter, Saturne, Vénus et Mars ? Mars, précisément. Eh bien, la planète rouge fait l'objet de multiples études actuellement. Dans ce cadre, Airbus développe depuis Toulouse un engin qui sera chargé de ramener sur Terre les échantillons de roches collectées sur Mars par le rover Perseverance. Cet orbiteur sera livré fin 2025 pour un lancement par la fusée Ariane prévu en septembre 2026. Une centaine d'ingénieurs toulousains d'Airbus travaillent sur ce projet. C'est devenu une habitude. Le Tour d'Espagne cycliste qui s'était lancé hier fera un petit passage par le versant français des Pyrénées. Ce sera dimanche 25 octobre, avec rien de moins qu'une arrivée au col du Tourmalet. Les coureurs vont rentrer en France par le col du Portalet dans les Pyrénées-Atlantiques avant de s'attaquer au col de Bisque et du Soulor, puis de terminer par une dernière montée vers le Tourmalet via les vallées du Gave, Luz et Barège. Et puis si le parcours officiel du 108e Tour de France sera officiellement dévoilé le 29 octobre prochain, plusieurs indiscrétions font état de deux étapes organisées dans les Hautes-Pyrénées. Le 14 juillet devrait voir passer les coureurs de la Grande Boucle depuis Saint-Gaudens vers la Vallée d'Or. Serait ensuite franchi le port de Balès, l'école de Peyresourde, Azet-Val-Louron, pour une arrivée au sommet du col de Portette. La deuxième étape promise aux Hautes-Pyrénées relierait dès le lendemain Pau à la station de Luz-Ardidène.
On vous retrouve en fin d'heure pour un dernier point sur l'actualité de notre région. À tout à l'heure.
La météo.
À 22 degrés de moyenne pour cet après-midi. Demain matin, là encore un très beau temps à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Il fera 16 degrés ainsi qu'à Auch et Rodez, 18 auprès de la gare Matabio à Toulouse et 15 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, la perturbation vient nous rendre visite. De rares averses dans le Lot, 21 degrés ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et le Gers. Des éclaircies pour Saint-Gaudens, le mercure montera jusqu'à 19 degrés et 20 degrés tout rond. Pour Tarbes, excellent après-midi sur Présence. Le tour des diocèses avec Isabelle Honnel sur votre radio chrétienne.
Et oui, le tour des diocèses, c'est cette petite chronique, cette incursion dans les diocèses que nous faisons tous les matins à 7h25 pour découvrir l'actualité d'un diocèse de la région. Ce matin, nous allons et nous restons à Toulouse. Nous avons rendez-vous avec Capucine Malville, elle est déléguée épiscopale à l'information, directrice de la communication du diocèse de Toulouse. Bonjour Capucine.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous les fidèles de Radio Présence.
Capucine, quels sont les événements à noter sur nos tablettes concernant votre diocèse de Toulouse?
Écoutez, aujourd'hui Isabelle, je souhaitais parler de la visite que Monseigneur va commencer ce samedi, une visite pastorale auprès de la pastorale de la santé. Alors une visite pastorale, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel, Isabelle, dans un diocèse, c'est quand l'évêque part à la découverte, à la rencontre des acteurs, soit d'une paroisse, soit d'un service, pour les encourager, pour découvrir avec eux la mission qu'ils ont d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, elle ne concerne pas uniquement les catholiques, l'Église étant en lien avec les réalités sociales, avec ce qui fait la vie du quotidien de chacun. Donc, l'évêque, veille ainsi à ce que le diocèse ne vive pas enfermé sur lui-même. Donc, à partir de ce samedi et durant plusieurs mois, une visite pastorale, c'est assez long, Monseigneur va rencontrer les acteurs de la pastorale de la santé dans leur environnement. Alors, c'est une visite qui avait été souhaitée de longue date par Monseigneur et puis qui avait été décalée en raison de la pandémie, mais elle trouve sans doute une saveur toute particulière dans cette situation sanitaire.
Vous pouvez nous dire, Capucine, quels sont les différents acteurs de cette pastorale et les différents lieux de mission que l'évêque, Monseigneur Le Gall, va être amené à visiter?
Bien sûr, Monseigneur, alors il va les rencontrer tant des laïcs qui sont investis dans ces pastorales, comme par exemple les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries de cliniques, les gens qui s'occupent de la pastorale des handicapés, et puis quelques représentants du service évangélique des malades. Vous savez, ce service si magnifique de laïcs, de paroissiens qui vont à la rencontre des personnes qui en ont besoin sur le territoire de leur paroisse. Donc il va rencontrer par exemple dans les hôpitaux de Purpan, de Rangueil, de Marchand et de Saint-Gaudens, des équipes salariées, des bénévoles, des directions, des patients, des soignants. Donc vous voyez, le spectre est assez large. Monseigneur va maintenir le contact avec des membres qu'il a envoyés lui-même en mission sur ces différents lieux. Et on plonge vraiment au cœur des réalités, parce que l'Église, habituellement, elle a mission d'accueillir au nom du Christ. Et soudainement, dans les hôpitaux ou les cliniques, c'est elle qui est accueillie et invitée à être présente dans des lieux qui sont quand même très spécifiques. Mmh. Alors, il y a quelques points d'attention qui vont être particulièrement évoqués. C'est la proximité avec les soignants, avec les aidants proches à domicile. On sait qu'en ce moment, en raison de cette crise sanitaire, ils sont particulièrement sur le feu. Mais néanmoins, comment est-ce qu'on peut être présent, les aider et puis soutenir, bien entendu, ceux qui sont malades? Comment se vit la complémentarité des laïcs, des ministres ordonnés? Et puis, bien entendu, la question du grand âge qui sera au cœur de la rencontre. Parce que vous savez que le grand âge, parfois, ce sont comme des morts sociales ou des morts ecclésiales. Donc comment rejoindre ces personnes, en particulier lorsqu'elles sont en déficience relationnelle, cognitive? Et puis, c'est un sujet qui est cher au cœur de Monseigneur Le Gall, c'est-à-dire cette pastorale du quatrième âge. Alors, Monseigneur ne vient pas comme un inspecteur, il vient plutôt comme un ami, comme un pasteur, comme quelqu'un qui a établi des grandes lignes et puis qui essaie de voir comment le monde évolue et comment il peut accompagner, comment l'Église doit accompagner au mieux ce monde tout en restant fidèle et fort sur ses valeurs. Donc, il va y avoir 8 grandes dates. Et puis, chacun est invité à apporter sa pierre à l'édifice. Si jamais il a si vous avez un témoignage, des propositions, vous pouvez bien entendu écrire au service diocésain de la pastorale de la santé, à la maison diocésaine au 28 rue de l'Aude. À la fin, au terme de cette visite pastorale, Monseigneur écrira un petit bilan qui sera discuté avec le service de la pastorale de la santé.
Et sans aucun doute. On aura l'occasion d'en reparler. Un grand merci, Capucine Malville, visite pastorale de la pastorale de la santé. Ça sera pour Monseigneur Le Gall à partir de samedi prochain et pour les mois qui viennent. Un grand merci à dans 15 jours, Capucine.
Au revoir, Isabelle.
L'air du temps avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. Comment ne pas parler du drame de l'enseignant décapité à Conflans ? Après l'émotion collective de dimanche et l'hommage national de ce mercredi, on nous annonce le temps de la fermeté contre l'islamisme. Alors attendons les actes, ils seront à la mesure de la lucidité officielle. Car mesure-t-on la nature exacte de la guerre que nous fait l'islamisme ? Ce n'est pas, comme on le dit partout, une guerre contre la laïcité, ni contre ce qu'on appelle nos valeurs, lesquelles d'ailleurs ? Non, l'islamisme fait une guerre politique révolutionnaire pour s'emparer d'une certaine population dans l'Hexagone, la minorité musulmane. L'islamisme veut la séparer du reste de la population française en creusant un fossé par les moyens les plus atroces. Si nous voulons empêcher cette séparation et cette prise en main, nous devons admettre plusieurs réalités décisives. Primo, les musulmans en France sont plusieurs millions et beaucoup sont citoyens français. Ils sont là et ils y resteront. Secondo, donner à ses compatriotes l'impression qu'on les insulte à travers leur religion, c'est faire le jeu des islamistes, qui est de persuader tous les musulmans qu'ils sont détestés et méprisés par les non-musulmans. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas en insultant quiconque que l'on fera aimer notre pays. Remarquons d'ailleurs que ceux qui insultent le plus la religion musulmane ne sont pas précisément des patriotes français. Ce sont soit des libéraux libertaires pour qui la patrie est une vieille lune, soit des racialistes blancs inspirés par l'Amérique de Trump. Alors il y a aussi d'autres qui disent, comme si c'était une recette miracle, il n'y a qu'à convertir les musulmans au christianisme. Oui. Mais c'est trop vite dit pour être sérieux. Une vraie conversion, c'est un cheminement long, autonome, très intime. Ça ne se fait pas sous l'effet d'une pression extérieure. Et si on veut vraiment aider son prochain à rencontrer le Christ, il faut d'abord respecter et aimer son prochain au nom du Christ. C'est une chose que tous les chrétiens devraient savoir depuis 2000 ans. Mais si le chrétien déteste le musulman au point d'applaudir un journal qui insulte autant le catholicisme que l'islam, ça ne favorisera certainement pas la conversion du musulman. C'est ce qu'expliquaient déjà Jean-Paul II et Benoît XVI. Et encore avant eux, saint François d'Assise en 1219. Regardez de travers saint François dans le camp des croisés, parce qu'il avait traversé le No Man's Land pour aller dialoguer avec le sultan. Ça se passait pendant le siège de Damiette en Égypte, époque où les relations islamo-chrétiennes n'étaient pas plus faciles qu'aujourd'hui, si j'en crois les chroniqueurs de l'époque et le petit livre de Chesterton, Saint François, dont je vous recommande la lecture. À la semaine prochaine.
Radio Présence dans le Grand Toulouse. 97.9.
Nous sommes ensemble sur votre radio chrétienne. Dans quelques minutes, votre évangile. En attendant, nous restons dans l'Occitanie, plus précisément dans le sud, avec Nino Fer. Il est actuellement 12h33. Bon appétit.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années.
l'été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend plus d'un million d'années et toujours en été.
Radio Présence aux portes du Tarn 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous le savez bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Et le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », elle s'y se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne le connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur
Jésus. Chers amis, si on regarde encore les journaux, on voit que des mauvaises nouvelles. Alors nous, on vous a parlé de crise sanitaire, maintenant c'est la crise économique. Alors chacun y va un petit peu de ses pronostics. Et alors, dans cette situation hein, qu'on connaît bien, on n'a pas besoin de détailler, parfois on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, on regarde l'avenir, certains sont un petit peu inquiet en regardant l'avenir. Et vous voyez, on est un petit peu obligé de se poser la question au fond de nous, mais où va-t-on? Parce qu'on n'a pas de précédent, on n'a pas d'élément de comparaison. On peut pas, c'est difficile d'imaginer quand on n'a pas d'élément de comparaison. Mais cette question, où va-t-on? On peut aussi l'entendre de deux manières. On peut dans l'entendre comme, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, est-ce que... Alors, il y en a qui font des tentatives de nous expliquer ce qui va se passer. Alors, la crise va durer jusqu'à telle date, la reprise de la croissance, ce sera à telle date. Enfin, voilà, autant de prédictions qui sont aussi nombreuses qu'imaginaires et qui sont assez risibles parfois. Et on essaye de pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, ça ne marche pas, ça. On n'en sait rien. C'est comme dans notre vie privée, hein. Sans regarder forcément ce qui se passe dans la société, si on regarde notre vie privée et que, par exemple, on se retrouve à un tournant de notre vie professionnelle où il va falloir choisir, où on se trouve à la veille d'un engagement, ça peut être le mariage par exemple, où on se trouve dans la maladie, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous voyez, dans toutes ces situations, on se rend compte que qu'est-ce qui va se passer, décris-moi l'avenir, ça marche pas très bien. Même si on fait semblant. Hein. Et souvent, on a l'imagination fertile pour imaginer l'avenir et pour essayer de faire une cartographie de l'avenir. Mais ça marche pas. Mais la question qui résonne dans notre cœur, où va-t-on, on peut aussi l'entendre d'une autre manière. C'est qu'est-ce qui va se passer, non pas en termes d'événements, non pas raconte-moi la suite, mais comment vivre ce qui est à vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devenir moi? Quel sens a tout ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, cette crise qui prend plein de visages différents, plein d'aspects différents, hein, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir moi? Et vous voyez, dans la lettre de saint Paul, c'est très intéressant parce que saint Paul, il dit « J'ai une intelligence extraordinaire du mystère. » Pourquoi pas? L'intelligence, c'est celui qui est capable de comprendre ce qui se passe. Et de quoi il parle quand il parle du mystère? Il parle de l'histoire humaine. Il parle de notre histoire. Et il dit « Jusqu'à présent, on n'avait pas bien compris le sens de notre histoire. » Voilà, on ne sait pas trop où on va, et il dit « Maintenant, j'ai une intelligence extraordinaire de l'histoire, parce que, d'abord, ça m'a été révélé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais cette histoire que je suis en train de vivre, hein, ça peut être mon histoire personnelle ou l'histoire de notre société occidentale, enfin la société mondiale aujourd'hui, eh bien, cette histoire, c'est un mystère, comme il dit, parce que Dieu s'y révèle. » Parce que je peux y rencontrer le Seigneur. voyez, saint Paul nous invite à poser un autre regard sur notre histoire, de celui du journaliste, ou du devin, ou de celui qui va prédire l'avenir. Ça, c'est pas possible. On peut pas prédire l'avenir, ça sert à rien de faire des prédictions à la télévision, ça sert à rien. Par contre, je peux avoir un autre regard, qui est celui de se dire, mais quel sens a ma vie aujourd'hui, avec tout ce qui se passe? Et vous voyez, saint Paul nous invite tout simplement à passer de la question « Où va-t-on? Qu'est-ce qui va se passer ?» à la question « Où va-t-on? Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de ma vie? Comment je peux vivre aujourd'hui tout ça ?» Et ce nouveau regard que porte saint Paul, qui n'est pas celui du journaliste, du devin ou du spécialiste en politique qui nous fait les prédictions sur les plateaux de télé, ça s'appelle le regard de foi. Regardez mon histoire, ce qui se passe aujourd'hui, sous le regard de la foi. Et alors on abandonne les prédictions tout d'un coup. Mais on va se demander comment vivre là, comment vivre ce que j'ai à vivre là, avec ma feuille d'impôt à payer, avec mon entreprise qui est peut-être en train de se casser la figure à cause des normes sanitaires, avec mes difficultés familiales et peut-être des personnes âgées de ma famille qui sont contraintes à l'isolement, et parfois on se demande pourquoi. Avec tout ce que j'ai à vivre aujourd'hui, quel est le sens? Comment je peux vivre tout ça? Eh bien, Jésus, dans l'évangile, il nous dit, mais voilà, soyez prêts. Ah bon, soyez prêts, mais qu'est-ce que ça veut dire, soyez prêts? Soyez prêts quand je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pas évident. Soyez prêts quand j'y vois pas clair. Comment vivre cette histoire? Vous savez que dans l'évangile, les auteurs qui ont écrit l'évangile l'ont écrit en grec. Et c'est pas par hasard qu'ils ont utilisé deux mots pour parler de l'histoire, de l'histoire que je suis en train de vivre. Du temps qui s'écoule. Ils ont utilisé deux mots. Un premier mot qu'on connaît en fait, qui s'appelle chronos. Vous savez, chronos, ça donnait le temps, la chronologie, le chronomètre. C'est ce temps qui s'écoule, voilà, ça se déroule là. Et il y a un autre mot qui nous intéresse davantage maintenant, qu'on n'a pas en français, hein, mais qu'ils ont en grec, dans l'évangile, et pour parler de ce temps que j'ai à vivre, qui est le mot kairos. Alors peu importe, on n'a pas à retenir ce mot-là, mais qui signifie bien autre chose que ce temps qui s'écoule. Qui signifie cet instant, l'occasion, l'opportunité. Cet instant unique qui est à moi, là, qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça que ça signifie. Vous voyez, et nous, notre histoire, c'est comme ça qu'on est appelé à l'aborder. Ce temps qui m'est donné, là, qu'est-ce que je vais en faire? Le Seigneur, il me dit qu'il faut que je sois prêt. Mais comment être prêt? Eh bien, il n'y a plus que le présent pour être prêt. Vive pleinement le présent. Le passé, il ne m'appartient pas, donc ça ne sert à rien. Il faut le laisser au Seigneur, le passé. Vous savez, parfois, dans nos vies, il y a des subtiles culpabilités qui nous relient au passé. Donc quand on avance, on regarde le passé, comme ça, en permanence. Et le Seigneur nous dit, non, le passé, ce n'est plus ton affaire, tu dois le remettre à ma miséricorde et à mon pardon. L'avenir, ben l'avenir, je l'ai assez dit, on ne peut pas l'inventer, hein, même si on fait semblant sur les plateaux télé, on n'en sait rien. Donc il nous reste ce temps, ce présent, ce kairos, pour être prêt, parce que c'est là que le Seigneur m'attend, et dans ce temps, je peux rencontrer le Seigneur. Comment? En faisant comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Je peux donner bien sûr ma vie sur la croix, mais je peux donner ma vie tout simplement en étant grand-mère et en m'occupant de mes petits-enfants, en étant maman et en m'occupant de ma famille, de mon foyer, en allant au travail, en me donnant dans mon travail, avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Et il y a des milliers de manières de donner sa vie. On peut la donner dans toutes les situations, dans ma vie associative, en supportant un collègue que je ne supporte pas, en allant au travail, en revenant de Lourdes. Quelle joie, quel bonheur. Toute situation peut être ce fameux kairos, cette occasion, cette opportunité de rencontrer le Seigneur. Vous voyez, c'est la grande révélation de l'Évangile, c'est d'une certaine manière d'arrêter de s'encombrer l'esprit avec des fausses prévisions de la pseudo-météo politique, mais de se dire, mais en fait, comment je peux vivre ça? J'ai pas choisi, mais comment je peux le vivre avec le Seigneur? Et c'est pour ça que, et je reprends ce terme de saint Paul, c'est que mon histoire, qu'on peut appeler la crise hein, aujourd'hui, est un mystère. Parce que c'est d'abord un lieu de rencontre avec Jésus. Et je voudrais terminer juste en donnant l'exemple de sainte Bernadette, qui ne s'est pas du tout préoccupée de savoir s'il allait avoir des centaines de millions de personnes, si le sanctuaire de Lourdes allait marcher, si financièrement on allait s'en sortir, si le flux des pèlerinages allait continuer, ce n'était pas du tout son problème. Est-ce qu'on allait construire une basilique, 2, 3, 4? Est-ce qu'on allait en creuser une sous terre parce qu'il y aurait trop de pèlerins en 1950? Est-ce qu'on allait embaucher 50 employés, plutôt 300, plutôt? Est-ce qu'on allait... Ce n'était pas du tout le problème de Sainte Bernadette. L'avenir n'était pas son problème, mais le problème était juste d'accomplir sa mission. Et sa mission, c'était d'aller dire aux autres ce qui... de dire ce que Marie avait dit, de dire aux prêtres, bien sûr, mais de dire à chacun ce que Marie avait dit, de partager ce qu'elle avait dit. Et puis c'est tout, même pas de nous le faire croire, de nous le dire. Voyez, voilà une fille qui est entièrement, au bon sens du terme, dans le présent, dans son histoire, à sa place, et qui est prête. Alors demandons-lui de nous aider, nous aussi, dans notre histoire, à vivre notre histoire comme un mystère, une occasion de rencontrer le Seigneur en nous donnant là et pas ailleurs où nous sommes. Amen.
À Pamiers, 100.2.
Vous aimez votre radio, vous ne voulez pas louper une miette de vos émissions. Le seul problème, c'est que vous avez des choses à faire et c'est bien normal. Vous pouvez toujours réécouter vos chroniques sur le www.radioprésence.com. Allez, dans 5 minutes, votre rendez-vous avec l'actualité de votre région. Ça, c'est juste après Isabelle Aubray.
Boulevard de la Méditerranée, c'était encore l'Europe, la Riviera. Et derrière la place des canons, c'était déjà l'Orient, la Médina. Le bazar d'Istanbul, les mystères du sérail, faux aveugles mendiants et marchands d'éventails, souvenirs de Byblos, fumeurs de nard. Des nuées de gosses autour des étrangers, des Allahu Akbar se confondaient le soir avec les Adonai et les paternoster, les chansons de Férouz avec les maudits. C'était avant tout ça, c'était avant hier, c'était avant l'orage, c'était avant l'enfer. Boulevard de la Méditerranée, des automitrailleuses croisent des brancardiers, et la place des canons, n'a jamais si bien porté son nom. La venue du Liban ressemble à Stalingrad. Des femmes et des enfants errent dans les décombres. Une Kalachnikov balaye des façades. Qui peut dire d'où viennent les eaux? Béret rouge ou marine, le sang appelle le sang, et les ruines, Chine, Marnide, Syriens ou Fédaïdes, ils vivaient tous ensemble, c'était un
présence à Toulouse 97.9.
L'actualité de votre région, c'est tout de suite avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giraud.
Le vent a soufflé très fort cette nuit dans les Pyrénées, toujours balayé par la tempête Barbara. 12 départements sont toujours en vigilance orange, dont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. L'Agence régionale de santé Occitanie publie son dernier bulletin de situation. Il fait état de 50 personnes mortes du Covid dans la région ces 4 derniers jours. Un conseil de défense se réunit ce mercredi à Paris pour examiner la situation du pays face à l'épidémie. Il devrait aborder le cas du Tarn, où un couvre-feu pourrait rentrer en vigueur vendredi pour les agglomérations d'Albi, mais aussi de Castres, Mazamet et Carmaux. Il y a du mieux au chapitre sécurité routière dans le Tarn-et-Garonne. Les 3 premiers trimestres 2020 font apparaître une baisse marquée du nombre de tués sur les routes. 14 contre 20 pour la période équivalente de l'année dernière. Au chapitre nomination, a signalé que le maire de Cahors, Jean-Marc Veissous-Fort, a été reconduit dans ses fonctions de président de l'Association des maires de France du Lot. Il a été réélu à l'unanimité. Un hommage national sera rendu en soirée à Samuel Paty, l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine, vendredi. Une minute de silence sera observée place du Capitole, dont la façade sera éclairée bleu, blanc, rouge toute la nuit. De son côté, la présidente d'Occitanie, Carole Delga, a décidé, au nom de la liberté d'expression, de projeter les caricatures de Charlie Hebdo sur les façades des deux hôtels de région à Toulouse et à Montpellier. Les assises de l'Aveyron jugent actuellement une affaire de viol et d'agression sexuelle en récidive commis sur un garçon de 12 ans. Les faits ont été commis à Capdenac en 2013. L'avocat général a requis une peine de 16 à 18 ans de prison. Les plaidoiries de la défense ont lieu aujourd'hui et le verdict est attendu dans la soirée. Plusieurs indiscrétions font état de deux étapes organisées dans les Hautes-Pyrénées pour le prochain Tour de France. Ce sera la 108e édition. Le 14 juillet devrait voir passer les coureurs de la Grande Boucle depuis Saint-Gaudens vers la Vallée d'Or. La deuxième étape, promise aux Hautes-Pyrénées, relierait dès le lendemain Pau à la station de Luz-Ardidène.
Un rapide coup d'œil sur votre météo dans votre région. 22 degrés de moyenne pour cet après-midi. Demain matin, là encore, un très beau temps à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Il fera 16 degrés ainsi qu'à Auch et Rodez. 18 près de la gare Matabio à Toulouse et 15 dans les Hautes-Pyrénées. L'après-midi, la perturbation vient nous rendre visite. De rares averses dans le Lot, 21 degrés ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et le Gers. Des éclaircies pour Saint-Gaudens. Le mercure montera jusqu'à 19 degrés. 20 Touron près de Tarbes. Je vous souhaite une excellente après-midi sur votre radio chrétienne. Je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international. Et moi, je vous dis à demain midi. Prenez soin de vous.
Présence à Figeac 97.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Mercredi d'audience générale au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, méditant sur les psaumes.